Mais voilà, je suis un peu surexcité ce matin. Ça me fait tellement du bien de passer du temps avec vous et dans la présence de Dieu. Et du coup, ce matin, on va continuer notre super série pour l'argent. Qu'est-ce que je suis content de parler sur l'argent ce matin. Je suis d'autant plus content que nous étions, et moi, pour parler de moi personnellement, j'étais vraiment nul dans ce qu'il est de gérer l'argent, de prendre ça au sérieux. Et comme Emmanuel vous a déjà raconté, je vous en dirai un petit peu plus, mais on a vécu ce que j'appelle moi personnellement une repentance financière ces deux derniers mois et demi. Et du coup, aujourd'hui, c'est avec un immense enthousiasme que je vais parler d'argent parce que l'argent, c'est un sujet tabou et j'ai un petit côté provocateur parfois, donc ça me fait plaisir aussi pour ça. Désolé, les amis. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je voulais mettre un minuteur pour être sûr que je finis bien à l'heure. Tac, voilà. Au moins, on aura du temps pour prier à la fin. J'essaye de m'améliorer. Mais bon, je fais confiance au Saint-Esprit. D'ailleurs, je vais prier pour commencer. Saint-Esprit, merci pour ce temps dans ta présence ce matin. Et je te prie que tout ce qu'on va partager maintenant à la suite de ce fabuleux temps de louange, eh bien, ça soit vraiment toi qui vienne le dire à nos cœurs. Seigneur, je te prie que les petits à côté que moi j'apporte personnellement, vraiment pâlissent, mais que ton message à toi, celui de ton évangile glorieux, celui de ton amour, vienne pénétrer nos cœurs ce matin. Et puis que tu nous fasses du bien, quoi, comme tu le fais jour après jour. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. L'argent, c'est tabou, mais comme on l'a déjà répété ces deux derniers messages, il y a plus de 2000 versets sur l'argent, beaucoup plus que sur la foi, sur la grâce, sur tout ce que vous voulez. Et si c'est important pour Dieu, eh ben, ça devrait être important pour nous. Vous êtes d'accord? Amen. Il y a beaucoup de bénédictions dans le fait de vraiment se pencher sur ce sujet, de ne pas en avoir peur, parce que souvent, quand on ne s'adresse pas, quand on ne traite pas d'un sujet, c'est souvent parce qu'on a peur aussi. On fait un peu l'autruche, vous savez, hein, on met la tête dans le sable, et c'est très humain de faire ça. Mais là, voilà, grâce à Dieu, n'importe quel sujet. Et je t'encourage même, un petit à côté, si tu as quelque chose qui te fait peur dans la vie, ça peut être l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses dans des relations, des blessures qu'il y a dans ton cœur, des choses sur lesquelles tu n'oses pas t'arrêter parce que tu as peur, tu te dis pétard, mais je préfère laisser ça de côté. Parfois, le problème, c'est que c'est inconscient, mais le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Fais face à tes peurs, confronte-les avec Jésus, hein, pas tout seul, pas comme ça, non. Passe un bon temps de louange et là, demande à Seigneur de commencer à toucher ton cœur. Parce que voilà, l'ennemi, sa stratégie, c'est de nous faire peur, on le voit avec ce virus, mais l'amour parfait bannit la peur. Amen. Alors, si tu as peur de quelque chose, eh ben, il y a un pasteur sud-africain que j'aimais bien qui disait « Run to your fears », cours vers ta peur. C'est-à-dire, tac, laisse le reste pour l'instant de côté, cours vers-y, vas-y la combattre avec le Seigneur. Amen. Waouh. Et donc, Emmanuel nous a parlé que moins, c'est plus. Moins c'est plus, Ecclésiaste 4, verset 6, « Mieux vaut le creux de la main rempli et le repos que deux mains pleines. » Vous voyez, si mes deux mains étaient pleines, je ne pourrais pas tenir mon micro avec le travail et la poursuite du vent. « Mieux vaut le creux de la main bien rempli et le repos que deux mains pleines avec le travail et la poursuite du vent. » Et elle nous a parlé sur comment ne pas se laisser diriger par ce que l'on possède, la soif de posséder. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc 12, verset 15. Et puis Olivier a continué la fois d'après en s'attaquant à ce fameux stress financier. Le stress financier, est-ce que c'est une bonne chose? Non, c'est une mauvaise chose. Et grâce à Dieu, on peut en sortir. Et vous connaissez ce proverbe dont Olivier nous a beaucoup parlé la dernière fois. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Mais là où il y a l'Esprit, là où il y a Dieu, il y a la liberté. Et grâce à ce cheminement, Dieu nous délivre de cet esclavage. Pas de pression, bien sûr. Olivier nous a expliqué que les dettes ne sont pas un péché. C'est juste quelque chose d'un peu bête dans lequel on se met. Et alors, l'immobilier, encore une fois, c'est à part, c'est particulier. Mais tout le reste, déjà, si on commence par ne plus avoir de dettes hors immobilier, déjà, c'est génial. C'est le cheminant qu'on essaye de vivre en ce moment personnellement. Je vais vous en dire un petit mot. Et La semaine prochaine, on clôturera avec notre cher Samuel, qui va traiter du sujet dont il est un peu spécialiste dans son travail, mais là, plus sur le côté spirituel des choses. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cartes de visite qui seront distribuées à la fin. C'est vraiment voir ce que Dieu dit sur « demain a de l'importance ». Investir pour le futur, ça a de l'importance. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de parler du fait de donner. Et que donner, c'est... Le stress financier, c'est... Et quand on en sort, on peut donner. Et donner, c'est... Mais même quand on est dedans, on peut donner. Mais donner, c'est bon, quoi. Donner, c'est bon. Et il y a, pareil, un de ces versets qui est tellement connu. Mais parfois, c'est les choses les plus connues, les choses qu'on connaît le mieux dans notre tête, qu'on vit le moins, ou du moins on les vit en partie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez cette petite fille, comme elle est joyeuse. Comme elle est joyeuse. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que, et je sais qu'on a tous expérimenté ça, dans une échelle ou une autre, mais malheureusement, le fait est qu'on vit dans un monde où c'est beaucoup plus... le moi d'abord que l'autre d'abord. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout, on est dans un... Et ne blâmons pas la société. Enfin, je veux dire, c'est... On y participe aussi. On y participe. On est dans une société de consommation. Il faut avoir plus de choses. Ma voiture, mes films, mon travail, mes besoins, ma famille même. Vous savez qu'une fois, j'ai une grosse repentance avec Dieu parce que je me suis rendu compte que même l'Église, je m'occupe de l'Église, même l'Église pouvait être une idole pour moi. C'est-à-dire que ça prenait toute la place dans ma tête. Et d'un coup, j'avais plus de la place pour Dieu. C'est quand même un truc de fou. Donc en fait, même des bonnes choses, des choses qui n'ont rien de mal en elles-mêmes, avoir une voiture, s'occuper de sa famille, avoir un travail dans lequel on s'implique, tout ça, c'est super. Tant que ce n'est pas dirigé vers moi, tant que ce n'est pas dirigé sur le fait que moi, j'assouvisse cette soif de moi, cet égocentrisme, c'est moi au centre, toujours moi. Et c'est vrai, on est dans une société, surtout en Europe et dans l'Occident, quoi, individualiste, quoi. On est centré sur le moi, mais grâce à Dieu, il est tellement merveilleux que on ne peut pas s'empêcher que de ne plus être centré sur nous-mêmes et de le voir lui, et là, ça nous fait du bien, quoi. Ça nous fait du bien de ne pas être centré sur nous-mêmes, pas être centré sur la soif de posséder. J'ai eu le privilège de vivre en Afrique du Sud, et ce qui m'a déchiré le cœur et en même temps beaucoup appris, c'est toute cette pauvreté que j'ai pu côtoyer. Et j'allais souvent dans les bidonvilles, j'avais tissé des relations avec des jeunes particulièrement qui vivaient dans ces lieux-là. Et quelle leçon incroyable que de voir cette joie. Et presque des fois, quand on a plein de choses, on est riche, on est très riche, nous ici en Europe, comparé à ces super personnes, mais presque on en vient à les envier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout ça, mais ils sont extrêmement joyeux et comme s'ils étaient libres de quelque chose qui nous tient un peu prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire ? Wow, quelle leçon incroyable ! On n'a pas besoin de posséder quoi que ce soit pour être heureux. Pour les jeunes, parfois, c'est d'avoir... En fait, je dis plein de choses qui ne sont pas dans mon message. Il faut vraiment que je me discipline. Pour les jeunes, parfois, c'est d'avoir le petit copain ou la petite copine. On a l'impression que tant qu'on n'a pas cette chose-là, on ne peut pas réellement être satisfait. Mais comme disait Pascal, il y a un vide dans l'homme que seul, c'est bien Pascal qui a dit ça, oui c'est lui, seul Dieu peut le remplir. Amen. Et du coup, donner, c'est vraiment très très bon. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et une fois, vous savez, on a aussi eu le privilège de partir vivre en Angleterre. Et recevoir, c'est bon quand même. Qui aime recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent, recevoir des choses ? Il y en a plein qui sont hyper spirituels. Non, moi je préfère que donner. Non, mais recevoir, c'est bon aussi. C'est vrai, ça, il faut apprendre à accepter des cadeaux aussi. Parce que ça veut dire qu'on n'est non plus pas bien avec nous-mêmes. On a d'autres soucis quand on ne sait pas recevoir les cadeaux. Et une fois, on avait mis plein d'argent de côté avec Emmanuel parce qu'on allait partir vivre à l'étranger. Donc on n'avait qu'un enfant à l'époque. Et nos revenus nous avaient permis, en peu de temps, Dieu avait vraiment multiplié par sa grâce, de mettre de l'argent de côté. Donc on avait cette somme. Et on avait calculé qu'en gros, ça nous permettrait de vivre un an à trois en Angleterre. Sauf que on avait le malheur, je vous bénis si vous avez une Renault, on avait le malheur d'avoir un Renault Scénic qu'on avait acheté d'occasion dans un garage vers Marseille. Je bénis les Marseillais. Mais quelques jours avant de partir, on s'est dit, on va quand même lui faire faire un petit check-up à notre Scénic. Et là, c'est le drame. Il y a eu deux drames avec ce Scénic. Ça, c'était le premier. On revient de chez le garagiste avec une facture de 3000 euros pour des choses qui, si on ne les faisait pas, on allait se retrouver en galère en Angleterre. Et donc voilà, on prie. Et je me rappelle, Emmanuel, ma chère et tendre épouse, avait déjà à l'époque, on avait appris cette leçon. Elle m'avait dit, attends, moi j'avais commencé à paniquer, très honnêtement, à ne pas faire confiance à Dieu. Emmanuel m'avait dit, et c'est un missionnaire anglais, qui avait sorti cette phrase une fois dans un temps où Dieu fallait vraiment qu'il pourvoie. Elle m'a dit, attends, on va voir ce que Dieu va faire. Oh, moi, c'était très dur pour moi d'adopter cette attitude. Et j'ai dit, bon, ben ok, on va voir. Et là, deux, trois jours avant, peut-être, ou peut-être une semaine ou quoi, tu te rappelles combien de temps avant? Je ne sais plus. Mais d'un coup, ma maman, on n'a rien demandé à personne. D'un coup, ma maman me dit, elle n'était pas au courant de la somme. Elle me dit, écoute, Matt, voilà, y a eu cette histoire de voiture. Voilà, on a à cœur de vous bénir. Je dis, ah super et tout, je pensais qu'elle allait me donner, je sais pas, 150, 200, 500 euros peut-être. Génial quoi, merci Seigneur. Et je vois, et elle me donne un chèque sans montant dessus, signé bien sûr. Et elle m'a dit, voilà, avec ça vous payez vos réparations. Mais j'étais, bien sûr ça venait de quelqu'un de proche, de ma maman, mais j'étais hyper touché quoi. On n'avait rien demandé et d'un coup cette somme nous était offerte par grâce. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est vraiment bon de recevoir. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc je vais vous raconter une autre histoire. Et au début de notre mariage, Emmanuel n'est pas au courant, donc elle a peur. Mais au début de notre mariage, donc on avait un enfant. Et Emmanuel avait passé son diplôme. Et j'ai vraiment eu à cœur de la bénir, de l'honorer. Quoi. C'était ma femme, j'étais... Toujours aujourd'hui d'ailleurs, tout feu, tout flamme, mais toujours aujourd'hui. Mais je voulais vraiment la bénir de manière extravagante. Quand on s'était mariés, notre alliance ne valait pas beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas de sous. Aucun de nous deux travaillait réellement à ce moment-là. On reprenait les études et tout. Et du coup, on avait acheté. Et là, j'ai dit, allez, là, je vais mettre des sous dedans. Et j'ai mis peut-être 4-5 fois ouais, à peu près le montant de l'alliance dans une bague, un diamant que je lui ai offert. Et voilà, et c'était vraiment pour la féliciter, elle venait d'être diplômée là, d'éducatrice de jeunes enfants, et puis aussi pour notre première fille, parce que j'avais envie d'aller dans cette tradition, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'on offre à une femme un diamant pour chaque enfant qu'elle met au monde. Vous avez déjà entendu cette tradition ? Vous êtes bénis, messieurs. Et du coup, ce qui est le top, c'est qu'on a reparlé de cette histoire il y a quelques jours. Et je lui ai dit, ah, mais je vais peut-être parler de ça. Et Emmanuel m'a regardé, il m'a dit, oui, d'ailleurs, on a eu 3 autres enfants depuis. Où sont les diamants ? Non, on a rigolé de ça. Mais c'est vrai que pour me rappeler de cette époque-là, je me rappelle que quand j'ai fait ce cadeau, dans mon cœur, j'étais hyper fier quoi, d'offrir quelque chose qui vaut cher. Une pierre, c'est juste une pierre, c'est juste une pierre. Mais c'est un genre de pierre qui a le pouvoir de déclencher une réaction de reconnaissance énorme. Et moi, j'étais fier d'offrir ça à ma femme, de dépenser de l'argent comme ça pour elle, pour la féliciter. Et mon cœur était rempli de joie. Et est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, qu'il y a plus de bonheur dans le fait d'offrir quelque chose ? Hein ? Il y a quelque chose de plus, quoi. Il y a un sentiment de réalisation, de « waouh, je fais quelque chose qui est... » Non seulement ça fait plaisir pour la chose, mais à l'intérieur, ouais, je me dis « waouh ». C'est spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent qu'on est dans le vrai, dans le bon. Et pourquoi c'est ça ? J'ai réalisé que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ce que la Genèse nous dit, que Dieu nous a créés à son image. Et en fait, quand on agit comme ça, quand on donne, eh ben, on est comme Dieu. On fait quelque chose que Dieu fait. Dieu donne, Dieu pourvoit, Dieu donne. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de la nature de Dieu qu'il a mis en nous, cette chose de donner. Cette chose de donner. Comme Dieu. Et ça m'a parlé par rapport à ce verset, en sortant de ce temps de louange, ça m'a d'autant plus parlé. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, son fils unique. Il n'en avait qu'un, Jésus. Le un tiers de la Trinité, je veux dire le Jésus, le centre de l'univers, celui qui a donné sa vie pour nous. Mais qu'il a livré pour nous, qu'il a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, dans Romains 8, 32. En fait, c'est vraiment la nature de Dieu. Dieu avait un seul fils et il l'a donné. Et il nous a donné ça, il nous a créé à son image. Ça veut dire que nous aussi, même quand on a des choses précieuses, il y a des gens qui donnent des voitures. J'ai pas encore eu... Si, d'ailleurs, j'ai opportunité de le donner, mais ce n'était pas vraiment ma voiture. On me l'avait donné et je l'ai donné aussi. Et ça a déjà fait très plaisir à la personne. Mais il y a des gens qui donnent des voitures, il y a des gens qui offrent des sommes incroyables comme ça. Et moi, j'ai hâte, pétard, de me dire, voilà 1 000 euros, voilà 1 million d'euros. Pourquoi pas, je ne sais pas, on verra. Mais pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Parce que c'est dans la nature de Dieu de donner. Et bien sûr, ce matin, ce n'est pas du tout une histoire d'évangile de prospérité. Je donne, donc automatiquement, je vais recevoir ce que j'ai donné ou plus. Mais il y a quand même un peu de ça. Il y a quand même des principes spirituels que quand on donne, c'est comme si, quand on donne quelque chose, c'est comme si on attirait quelque part la bénédiction sur nous. Parce que donner, comme je viens de le dire, c'est un acte avant tout spirituel. Et ça libère une puissance. Vous voyez la réaction de la personne, ça libère une puissance de donner. Et c'est comme si, alors que, et je vais vous lire un passage pour illustrer ça, rappelez-vous, donc c'est dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Semence parcimonieuse, donc petite, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. » C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est écrit là-bas sur la boîte. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez, en tout temps et en toute chose, ce dont vous avez besoin. Il restera encore du superflu. Celui qui fournit la semence au semeur, donc Dieu, et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendriez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières et reconnaissances envers Dieu. Et là, Paul était en train d'encourager l'église de Corinthe à donner pour du travail missionnaire. Mais voilà quoi, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, ce que l'on sème, on le récolte, c'est un principe naturel et c'est aussi un principe biblique. Donc, ce n'est pas qu'on vient à Dieu pour être riche, on vient à Dieu pour Dieu. Mais alors qu'on se comporte comme lui, on est comme lui, il nous a fait à son image, on est comme lui, alors qu'on se comporte comme lui, le fruit de qui il est, le fruit, ça, on ne peut pas s'empêcher que de créer l'abondance. C'est comme un acte créatif de donner. Et ça va forcément, si je donne l'abondance, je vais récolter en abondance comme de Corinthiens nous le dit. Donc c'est pas, parce que des fois, on en parlait ce matin avec Elaïs, des fois, évangile de la prospérité, c'est une grande expression qu'on entend, c'est peut-être plus aux États-Unis à l'époque, je ne sais pas, mais du coup on a tendance à aller dans l'autre extrême. Ah oui, non, genre, ben voilà, faut pas parler d'argent, faut pas utiliser certains mots, être riche, machin et tout, et du coup on va dans l'autre extrême où on a peur de parler d'argent, et on a peur de réaliser que Dieu veut nous bénir, et on a peur du coup, et puis du coup on finit par ne plus donner, quoi, parce qu'on sort un peu de ce paradigme, un peu de ce contexte donner et recevoir. Amen. Donc donner, c'est bon. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu veux être heureux, donne. Si tu donnes quelque chose tous les jours, tu seras heureux tous les jours, quoi. Et bien sûr, il n'y a pas que des biens ou pas que de l'argent. On donne son temps, on donne, vous voyez, celles qui sont venues faire le ménage de manière extraordinaire, on peut donner plein de choses, on donne son affection, on peut faire un câlin à quelqu'un, bon, pas en ce moment, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut donner de plein de manières différentes. Bon, est-ce que vous êtes d'accord maintenant que donner c'est bon? Ok. Alors, ben, ça tombe bien parce qu'on va faire passer la boîte. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment eu à cœur de faire passer la boîte à offrande dans cette église. Et du coup, souvent, des gens se sont inquiétés, ils ont dit, mais nous, on aimerait donner, comment on fait quoi? Il n'y a pas de boîte, comment je fais? Comment je fais? Et c'est vrai que je vous avais raconté cette histoire de, du coup, les gens venaient nous donner des sous, on mettait dans nos poches, et parfois, ça allait à la machine à laver. Bon, c'est pas trop arrivé, pas vraiment, je crois, en fait, mais il y avait ce risque-là. Du coup, on a dit, allez, on va mettre une boîte au fond de la salle, comme ça, il y a un endroit, c'est quand même plus sérieux, mieux, il commence à y avoir un peu des sommes plus importantes, donc on va faire ça sérieusement. Et du coup, mais quand même, donc si on dit que donner c'est bon, et là bien sûr on est sur des messages sur les finances, et ben j'ai trois axes, c'est très rapide, pour essayer de savoir comment grandir dans le fait de donner. Trois axes. Et dans tout ce que je vais dire, je veux vraiment être conscient que peut-être que toi aujourd'hui tu es dans une situation difficile financièrement, parce qu'on peut tous passer par ces moments-là, et du coup vraiment il y a zéro jugement. Il y a, comment dirais-je, tu es dans cette situation, ça ne veut pas dire que tu vas y rester. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu pourras donner abondamment, mais peut-être qu'en ce moment tu ne peux pas donner abondamment. Eh bien sache qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, personne n'est forcé de donner. On est beaucoup plus là et on est dans le domaine du cœur. Et les trois axes, je vous le dis, donc le premier, c'est sur la dîme. On va parler un peu de la dîme. Le deuxième, c'est sur planifier sa générosité. Et le dernier, c'est commencer maintenant. Je vous l'ai dit à l'avance. Mais voilà, comme on parle de dîme, vraiment réaliser que là, on est en train de parler du cœur. Ce n'est pas une histoire de commandement. La dîme, moi, j'ai toujours un peu navigué dans ce sujet-là parce que, en fait, il y en a qui disent des choses, il y a des théologiens qui disent des choses, d'autres théologiens qui disent d'autres choses. Et c'est super de faire cette série de messages sur les finances parce que ça m'a permis vraiment de recreuser ça et de re-réaliser ce que la parole pouvait nous dire à ce sujet. Donc, je vais vous livrer le fruit de cette réflexion. Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Apparemment, c'est le seul endroit de la Bible où Dieu nous dit qu'on peut le tester. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est plutôt clair, la Bible, on sera béni quoi, si on donne, c'est génial. Merci Seigneur. Et Lévitique 27:30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et enfin, ce fabuleux passage de Proverbe 3:9, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices. Très important, retenez ce mot, prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Alléluia. Mon fils, si l'Éternel te corrige, c'est le verset d'après, n'en fais pas fi. Et on disait avec Emmanuel, c'est rigolo que ces deux versets soient l'un après l'autre dans ce proverbe. Il parle d'argent et après il dit si l'Éternel te corrige. Donc peut-être qu'on a besoin d'être corrigé par rapport à l'argent quand même. Mais bon, l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Donc, comme je le disais, on est dans la nouvelle alliance. Et souvent, je me disais, j'avais pas trouvé en fait de verset qui parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Et du coup, je me disais, mais ça doit être comme certaines choses réservées à l'Ancien Testament. Et en fait, Dieu a vraiment touché mon cœur. Il y a Jésus qui parle de ça dans deux évangiles. Ce passage est cité dans Matthieu et Luc. Dans Matthieu, c'est Matthieu 23-23, où il est très énervé contre les pharisiens qui essayent encore de le pousser dans ses retranchements. Et il leur dit, oui, c'est bien en gros, il leur dit que, j'ai pas sorti le passage, je sais pas pourquoi, Matthieu 23-23, que c'est important, que le plus important, voilà, c'est le cœur, c'est de pratiquer ces choses-là, l'amour, etc., mais de ne pas oublier les autres choses dont les pharisiens lui parlaient juste avant, ce qui est la dîme. Donc en fait, Jésus, il a quand même tendance, c'est cité dans ses deux évangiles, à conforter ce fait que de donner la dîme, c'est une bonne chose. C'est quand même ce qu'il dit implicitement. Et puis, ça ne m'a pas gêné de voir ça parce que j'ai réalisé que ce n'est pas le seul commandement, heureusement, de l'Ancien Testament qu'on est appelé à appliquer. Par exemple, tu ne tueras point, je pense que c'est dans l'Ancien Testament, mais on est quand même tous d'accord que c'est aussi pour aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces commandements que Dieu donne, toutes ces invitations qu'il nous fait, ça marche toujours. mais c'est juste que c'est fait dans un total état, l'état d'esprit est totalement différent. On ne fait pas ça pour avoir la faveur et l'approbation de Dieu. On fait ça parce qu'on a eu son amour et sa faveur. Et du coup, on lui donne. C'est vraiment une histoire de cœur. On le fait. C'est pour ça que l'Éternel aime celui qui donne avec joie. C'est quelque chose qu'on est censé faire vraiment de tout notre cœur. Et si on ne le fait pas de tout notre cœur, ben, c'est comme... non, ce n'est pas comme ne pas tuer quand même, mais c'est comme plein d'autres choses. Autant ne pas le faire. D'accord ? Ne pas tuer, il ne faut jamais le faire. Donc, c'est une histoire de cœur avant tout. Mais moi, je me suis dit qu'en fait, la dîme, c'était génial. Donc là, il est parlé des prémices, on est d'accord ? Donc en gros, tout ce qu'on reçoit, la Bible nous dit, ben, il y a 10%, parce que dîme, ça veut dire, ça vient de 10%, 10. Eh bien, en fait, c'est pas pour nous, ça ne nous appartient pas. Tout de suite, voilà. Et moi, j'ai fait un petit truc très pratique. Pourtant, moi, j'ai pas de salaire, je suis à mon compte, donc je gagne ce que je facture en fait en soins. Du coup, j'ai des sommes, des petites sommes d'argent comme ça qui arrivent régulièrement sur mon compte. Au début, j'ai essayé de calculer 10% de chaque somme. J'en pouvais plus et du coup, je donnais plus. Olivier m'a dit, oula, ça marche pas ton truc. Non, je plaisante. mais c'était trop compliqué. Donc j'ai dit, de toute façon, c'est les prémices. Dieu va pourvoir. Allez, j'ai mis le virement permanent au premier de chaque mois. Et au moins, taxe à part. Et ce côté prémisse, c'est super important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est Dieu d'abord. Je l'ai peut-être pas mis dans le diaporama, je sais plus. Dieu d'abord. La dîme, notre argent ne nous appartient pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Notre argent ne nous appartient pas. Il nous est confié par Dieu. C'est Dieu qui est propriétaire de toutes ces choses. On est d'accord ? Amen. Tout nous vient de Dieu. Et du coup, la dîme, plutôt que de voir ça comme une loi, non, c'est un outil fabuleux pour dire, ben, je donne et je ne m'occupe pas de ce qui est fait avec cet argent-là. C'est un don que je fais à Dieu, écoutez-moi bien, à Dieu, c'est un don que je fais à Dieu, du coup, je ne m'occupe pas de qu'est-ce qui va être fait avec cet argent. C'est désintéressé et ça vient d'une réalisation, cet argent ne m'appartient pas, il m'est confié. Je donne ce pourcentage directement à Dieu et du coup, en le donnant ce pourcentage, je marque ma confiance en Dieu. C'est une histoire de confiance. Et c'est vrai que dans notre génération, oui, on aime bien savoir quand même qu'est-ce qui va se passer avec nos dîmes. Et souvent, on se dit, ah, mais je vais en donner peut-être une partie là, une partie là. Je ne crois pas que ce soit le cœur de Dieu pour ça. Le cœur de Dieu, je sens plus, c'est une histoire de... Est-ce que tu me fais confiance ou pas ? On va voir les modalités concrètes. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je donne ces 10%. Bon, je suis un peu, comment dirais-je, je ne suis pas objectif à 100%, vous l'aurez compris dans ça, parce que étant responsable de l'Église, j'ai forcément part aux décisions qui sont prises avec l'argent que vous donnez. Mais je donnais ma dîme dans les églises où j'étais avant, c'était pareil, quoi. Et en fait, il y a une histoire de confiance et une histoire de prémisse en premier. Et voilà. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Ça veut dire que c'est Dieu en premier. Et dans tout ce que je vais avoir à dépenser ce mois-ci, mon crédit, mon électricité, toutes les dépenses, eh bien, si j'ai confiance en Dieu, je crois qu'avec les 90% qu'il me reste, eh bien, Dieu peut faire largement plus qu'avec les 5% que je croyais, moi, maîtriser. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous comprenez ? Dieu peut faire largement plus. Et nous, on le vit là en ce moment, c'est fou. Donner notre dîme, on le faisait. Bon, franchement, on est responsable de l'Église, ça serait bizarre quand même qu'on donne pas à l'Église. Quoi. Je veux dire, ça serait un peu bizarre. On a toujours évidemment donné à l'Église, je vous dis, je ne suis pas vraiment objectif. Mais cette somme, c'était quand même une somme importante, 10% de notre budget, c'est quand même quelque chose d'important. Et bien, chaque mois, ça piquait un peu. Bon, on était tellement mauvais dans notre gestion d'argent qu'on ne regardait même pas trop, je ne sais même plus quand est-ce qu'elle était prélevée. Mais ça piquait un peu. Et bizarrement, depuis qu'on a suivi les principes du premier message et du deuxième message, eh ben, donner notre dîme, et même peut-être au-delà, c'est devenu hyper, hyper facile. Et ça, on est choqué par ça, quoi. En fait, quand on commence à mettre Dieu en premier, c'est fou, tout le reste prend sa place naturelle dans notre vie. C'est incroyable. Et je pense que c'est un principe. Alors oui, on a arrêté certaines dépenses, mais je pense qu'il y a un principe spirituel là-dedans, que quand on met Dieu en premier, peu importe dans quoi, dans tous les domaines de notre vie, si je mets Dieu d'abord, chaque chose va prendre sa place naturel. Et c'est pour ça que ces 10%, je veux plus, moi, j'ai pas envie, en fait, c'est même pas un débat théologique, j'ai même pas envie de rentrer dans, j'ai même pas envie qu'on en débatte ensemble. Enfin, moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous inspirer, pour vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à ça. Mais après, je veux dire, c'est chacun devant Dieu. Et il y a zéro pression. Et Dieu, d'ailleurs, pour cette église, a toujours pourvu. On n'a jamais manqué d'argent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on péchait, d'ailleurs, dans ce domaine-là. C'est qu'on n'organisait pas quelque chose par rapport à l'argent parce que Dieu n'arrêtait pas de donner. Un jour, il y a un ami qui est venu me voir. Il m'a dit, tiens, voilà un chèque. J'ai failli le mettre à la machine à laver. In extremis, je l'ai sorti de ma poche. J'ai vu qu'il y avait 5000 euros sur le chèque. C'était à l'époque où on cherchait à réunir de l'argent pour acheter ce bâtiment. Voilà, quoi. Dieu est propriétaire de tout ça dans tous les cas. Autant faire ce petit test. Testez-moi, dit Dieu. Testez-moi. Donne-lui tes 10%. Donne-lui. On verra ce qui va se passer. Et il y en a, j'ai entendu un pasteur, l'autre fois, j'ai écouté une prédication sur ce sujet, qui dit, ben moi, j'ai eu à cœur de donner une double dîme. Et lui, depuis 35 ans, donne 20% de tous ses revenus. Et en fait... tu as multiplié, quoi. Et encore une fois, je ne dis vraiment pas ça pour dire « Ah, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. » Non. C'est entre toi et Dieu. Vois ce qui met dans ton cœur. Teste-le. Moi, je t'encourage, je te laisse ce petit défi. Teste-le, essaye. Et vois ce qui va se passer. Peut-être 2 mois après, tu arrêteras, peu importe. Mais essaye. Et mets Dieu au centre de ta vie dans tout. Et tu verras, tout va prendre sa place naturelle. Amen. Amen. Ça pique un peu ou ça passe ? Oh pétard, j'aurais jamais dû mettre ça. Non, ça passe. Franchement, les amis, je pense qu'on a des choses qu'on ne soupçonne pas. C'est comme si on limitait Dieu de nous bénir. Dieu, il peut tout faire. Mais dans ce cas-là, je sens qu'il nous invite à faire ça pour qu'on puisse voir combien il veut nous bénir encore plus. Et à chaque fois que tu donnes, tu verras, il va se passer des choses. Je ne peux pas te dire, tu donnes ça, tu auras ça. Non. Mais il va se passer des choses. Je veux dire, tous les versets qu'on a lus depuis tout à l'heure le disent. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, c'est la parole qui le dit. Quand tu donnes, tu recevras. Et concrètement, donc voilà, ce que je disais, concrètement, je donne à Dieu, eh bien, je donne à en fait, l'Église. Quand on voit dans le début du Nouveau Testament, c'est vraiment ce que Dieu a créé pour amener son royaume sur la terre. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Et là, le Saint-Esprit est venu, les 3000 se sont convertis, l'Église primitive était née, ils partageaient tout. Et en fait, il y a ce truc que l'Église, c'est la seule organisation qui existe au monde qui va durer pour l'éternité. C'est le plan de Dieu pour sauver la terre, pour amener son royaume, c'est l'Église. Amen. Il y a d'autres passionnés que moi dans cette salle pour l'Église. L'épouse de Christ qui va venir chercher sans tache ni ride, ensemble à nous, on va passer l'éternité ensemble. Autant commencer à se régaler aujourd'hui, quoi. Si on s'aime pas, ça va durer l'éternité, ça sera un peu long. Non, mais l'Église, quoi. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, ils apportaient donc au tabernacle au début, ils apportaient, c'était les Lévites qui étaient chargés, bien sûr, d'organiser tout ça. Eh bien, là, c'est pareil. J'apporte à l'Église, ça veut dire c'est comme si nous, on était devenus les Lévites, en fait, si vous voulez. On essaye de faire de notre mieux, suivre ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, dans tous les domaines de l'Église, mais notamment avec l'argent. Et vous savez quoi ? Vous avez des leaders imparfaits. Peut-être que des fois, c'est pas les bons choix qu'on fait. Mais il se trouve que Dieu nous a appelés à démarrer cette Église. Il se trouve qu'on vit des choses extraordinaires dans l'Église, y compris financièrement. Et du coup, d'apporter... Eh bien, j'apporte et je dis, voilà, les amis, moi, je fais confiance à Dieu. Il se trouve que Dieu vous a choisi pour vous, donc je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Et croyez bien, soyez bien convaincus que cet argent, donc on paye des salaires, on paye des missionnaires, on paye le bâtiment, on paye plein de choses avec ça. Vous aurez le détail à l'AG de tous les nouveaux projets qui sont prévus. Mais à aucun moment, évidemment, on ne considère comme... notre propriété de comment dirais-je, même pour la gestion, quoi. C'est comme si cet agent vient, il est là, on se retrouve à le compter, à dire voilà, telle somme, mais c'est toujours Dieu qui est au contrôle de tout ça. Il y a plusieurs personnes qui sont chargées de s'occuper de ça. Et on croit que, alors qu'on continue à donner, et même peut-être qu'on grandit dans le fait de donner, mais Dieu va multiplier, quoi. Il va faire des choses extraordinaires, qu'on va être capable d'employer plein d'autres personnes pour avoir du temps, pour faire plein d'autres choses pour cette église, mais au travers de cette église, pour cette ville. Et puis aussi à l'autre bout du monde, on était à ce rassemblement en Angleterre de notre réseau d'églises. Et on a parlé de notre ami qui a ouvert une église il y a une quinzaine d'années, je crois, en Turquie, qui devait être à ce rassemblement. Et ils ont montré une vidéo sur l'écran parce qu'au lieu d'être à ce rassemblement, où est-ce qu'il a été ? En prison. Et une église fabuleuse qui baptise des dizaines, voire des centaines de gens chaque année. Un ami proche, vraiment quelqu'un de qui on est proche, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Et ben c'est à ces personnes aussi là que notre argent va. C'est, si vous voulez, donc voilà, vous aurez le détail. Je vais finir parce que j'ai vraiment envie de prier. Mais concrètement, donner à Dieu, on va pas jeter des trucs à la mer comme ça, quoi. Non, on donne à l'Église le plan que Dieu a choisi pour amener son royaume sur la terre. Et bien sûr, il y a aussi les mouvements, comment dirais-je, para-Église, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je ne crois pas du tout au fait de dire j'appartiens à l'Église si je n'appartiens pas à une Église locale. La manifestation de l'Église avec un grand E, c'est l'Église locale. Et si tu n'appartiens pas à l'Église locale, est-ce que tu appartiens réellement à l'Église avec un grand E ? Moi, personnellement, je n'ai pas cette... J'ai pas cette conviction-là. J'adore les ministères, para-église, le self, enfin, tout ce que vous voulez. Il faut un travail admirable. Mais pour moi, ça s'est développé tout ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé avec des responsables de jeunesse en mission qui sont devenus implanteurs d'église. Peut-être tout ça, ça s'est développé parce que l'église n'a pas fait son boulot, parce qu'on n'a pas fait notre boulot. Il y a peut-être une partie, je sais pas, je vous dis ça, je vous le lance comme ça, j'en suis pas... Mais il y a un truc, c'est que l'église, quoi, l'épouse de Christ. Et quand on est ensemble réunis, c'est là qu'on est l'épouse. Et oui, on se tape dessus, oui, c'est pas toujours évident, mais aussi on se régale. Et un jour, Dieu va venir chercher son épouse sans tache ni ride, et une épouse qui, grâce à Dieu, aura fait fructifier, comme la parabole des talents, ce que Dieu aura donné, et aura vu des résultats fabuleux sur toute la terre, et le royaume de Dieu aura envahi cette terre. Amen. Amen. Waouh, j'ai trop hâte de donner. Vous inquiétez pas, on va pas faire passer la boîte aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement génial de donner à Jésus. Donc comme je vous disais, voilà, le but c'est pas le débat théologique, mais donner quand même d'une manière qui fasse grandir notre dépendance et notre foi en Dieu. C'est un outil pour grandir dans notre dépendance et notre foi en Dieu. Amen. Waouh, vivement que cette finie sur l'argent soit finie, qu'on puisse passer à autre chose. Peut-être certains se disent ça dans la salle. Non, je plaisante. Amen. Et du coup, le 2 et le 3, le 2, c'était tout simplement planifier sa générosité. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en plus de notre dîme, chaque mois, Olivier nous a exhorté à faire un budget. Chaque mois, il y a une petite somme pour donner à d'autres choses en plus. Donc là, il y a un couple d'amis. On a eu à cœur de leur donner, on a eu à cœur de leur donner 30 euros par mois. 30 euros par mois, ça ne pourrait être pas peut-être grand-chose, mais si on fait 30 euros fois 12, ça fait 420 euros, c'est ça ? On aurait combien ? 300 ? 360, excusez-moi. Mais en tout cas, ça aurait été peut-être plus compliqué que leur donner cette somme d'un coup. Mais voilà, Dieu nous a mis à cœur de faire ça. On fait ça. En fait, planifier notre générosité. Olivier nous a invités à faire un budget. Et quand il en vient à donner, pareil, le budget vraiment va nous aider concrètement à rendre des choses possibles plutôt que d'attendre le dernier moment. Et là, paf, on ne peut plus donner. Donc planifier notre générosité, les bienfaits du budget. Et moi, j'aime bien prendre ça comme une aventure. Là, on a donné à ces gens pendant cette période. Peut-être ça va s'arrêter. Et peut-être après, on va changer. On va se dire, voilà. Il y a quand même cette somme-là de 30 euros ou 40 ou 50. Peut-être d'autres, c'est 100. Je ne sais pas. On a chacun des finances différentes. Peut-être c'est 5 euros. Peut-être c'est 5 euros. Mais Seigneur, avec ces 5 euros, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce mois-ci ? Qu'est-ce que tu veux que je bénisse ? Franchement, ce n'est pas génial de faire ça, ce sentiment d'aventure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être là, il va lui manquer quelques pièces pour payer. Ça nous arrive à tous d'avoir quelqu'un à qui manque quelque chose d'un coup pour payer quelque chose. Voilà 5 euros, madame, achetez vos pâtes et votre riz. Vos pâtes qui viennent d'Italie et votre riz qui vient de Chine. Ça m'a fait très rire ce truc qu'a posté Eric sur WhatsApp. Mais bon, c'est pas très drôle à la fois parce que c'est quand même grave ce qui se passe là-bas. Mais quand même, non mais vous voyez ce que je veux dire ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent ? Qui tu veux que je bénisse ? Et dernièrement, commencez maintenant. Parce que ça, c'est pareil. Je vous ai parlé de l'autruche qui met la tête sous le sable. C'est vraiment le genre de truc, la dîme. Oui, Seigneur, je crois, merci, tu m'as parlé, je vais donner ma dîme. à partir de l'année prochaine, je sens vraiment que tu m'as... Ou oui, Seigneur, tu m'as demandé de donner telle personne, tel argent à telle personne. On verra dans 6 mois quand il n'en aura plus besoin. Merci, Seigneur. Non, mais c'est vrai, ça fait partie des choses qu'on va peut-être décaler, on va procrastiner. Non, commence maintenant. Et souvent, Olivier nous exhorte à ça. Si tu ne peux pas donner 10% aujourd'hui, donne 1%. Donne 1%. Commence. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie après de plus grandes. Amen. Commençons maintenant. Ben écoutez, j'ai terminé. Je vous propose tout simplement qu'on sorte nos porte-monnaies. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ça me fait tellement rire à la fois. Et qu'on secoue en l'air nos billets comme ça. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une histoire d'argent, tout ça. C'est pas une histoire d'argent. L'argent, j'ai envie de dire, ça n'existe pas. C'est des morceaux de papier qu'on signe, c'est des billets, ça n'existe pas vraiment. Toutes les richesses du monde appartiennent à notre Seigneur. Il se trouve qu'il a choisi que dans le monde dans lequel il nous a placés, on utilise cet argent pour faire sa volonté. Pour faire sa volonté. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier ? On sort rien de nos poches. Non, non, vous pouvez juste ouvrir vos mains d'ailleurs. Ouvrir vos mains. On n'est pas là pour donner là tout de suite, on est là pour recevoir. Ah Seigneur, merci. Merci mon Dieu, tu nous as tout donné Seigneur, tu nous as donné ton Fils, tu ne l'as pas épargné. Tu aurais pu le garder avec toi dans les lieux célestes pour l'éternité et nous laisser vivre les conséquences de notre péché. Mais non, tu n'es pas comme ça. Tu es le Dieu qui donne et tu es le Dieu qui a donné son propre Fils unique. Oh, merci pour ce fabuleux exemple et merci de nous avoir créés comme ça aussi Seigneur, c'est notre nature de donner. C'est notre nature de donner, Seigneur. Et Seigneur, alors que l'on parle dans cette série qu'on a bientôt terminée sur les finances, je te prie vraiment ce matin que tu fasses un travail dans nos cœurs. Je sais que tu as parlé par ton Saint-Esprit à plusieurs personnes parmi nous, Seigneur. Peut-être que certaines personnes étaient comme moi et je suis loin d'en avoir terminé dans ce cheminement, dans cette repentance financière. Mais peut-être que dans certaines personnes, il y a ce stress financier encore. Il y a peut-être ce mal-être, ce mal à l'aise avec l'argent. Et il y a peut-être aussi un plus grand degré de liberté que tu veux amener, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te prie que tu le fasses ce matin. Je sais, Seigneur, qu'à l'instant même où nous prions, tu es en train de travailler le cœur, Seigneur Jésus, de mes frères, de mes sœurs, d'une plus grande réalisation que tout appartient. Que cet argent que je peux toucher chaque mois, que cette CAF qui me donne cette somme d'argent, que peu importe d'où vienne la source, Seigneur, c'est toi qui pourvois, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te prie que vraiment je puisse réaliser ça encore plus, Seigneur Jésus. Que tu m'as fait confiance avec cet argent. Et vu que tu m'as fait confiance avec ça, je veux le prendre sérieusement, Seigneur. Il n'y a pas de pression avec toi, Jésus. Mais tu m'invites par ce moyen à faire ta volonté, à voir ton royaume s'agrandir, se manifester. Et voilà, Seigneur, alors qu'on a les mains ouvertes ce matin, et bien comme même, et je le fais prophétiquement, Seigneur, je t'ouvre la main vers toi comme ça et je te dis, Seigneur, voilà, je te le rends. Seigneur, tout est à toi, Seigneur Jésus. Mais par contre, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à bien le gérer, Seigneur Jésus. Aide-moi à faire ta volonté avec cet argent et aide-moi à donner, Seigneur. Aide-moi à donner. Montre-moi, Seigneur, dans quelle aventure tu veux m'emmener avec cet argent pour toi. Donne-moi cette joie, Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne-moi cette joie de voir des gens tomber en larmes parce que juste c'est la somme dont ils avaient besoin, Seigneur. C'est la somme dont ils avaient besoin à ce moment-là précis, Seigneur Jésus. Donne-moi de voir des enfants recevoir des cadeaux et être joyeux. Donne-moi aussi d'apprendre à recevoir les cadeaux des autres, Seigneur Jésus. À ne pas dire non, 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 garde-le. Seigneur, tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui a toutes les possessions de la terre et du monde avec toi, Seigneur Jésus. Et c'est un privilège de te partenir. Alors, Seigneur, alors que... On met la main sur nos cœurs, Seigneur. On te dit, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de loi. Est-ce que je dois donner si ça... Non, c'est une histoire de cœur, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs encore ce matin, Seigneur Jésus. Que nous puissions voir ta grâce. Que nous puissions rentrer dans un plus grand degré de faveur aussi, Seigneur. Alors que l'on obéit, ta faveur va venir. Ta faveur... Seigneur, nous avons la faveur en Jésus, mais c'est comme si alors qu'on fait des pas de foi, tu vas nous confier encore plus, Seigneur Jésus. Tu vas nous confier encore plus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu nous fais. Et merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tout ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi que nous respirons. C'est grâce à toi que nous sommes là aujourd'hui. Et on te dit ce matin à nouveau, Seigneur, on t'abandonne nos vies, Seigneur. Prends nos vies à nouveau ce matin. On te donne tout. Nous voici, Seigneur Jésus. Envoie-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as donné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, merci Seigneur. Si j'avais su que je parlerais d'argent un dimanche matin, je l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Eh bien, les amis, il est temps d'aller chercher nos chers chérubins qui sont de l'autre côté. Encore une fois, remercions bien les moniteurs qui ont donné pour le coup, qui ont donné de leur temps. Souvent, les gens donnent de l'argent aussi de manière... Je sais qu'il y a plein de factures qui ne sont pas rapportées, il y a plein de choses, c'est beau. Merci à tous, ouais, je ne l'ai pas dit, merci à tous pour votre générosité. Merci pour votre générosité. Vous êtes fabuleux, vous êtes des exemples, c'est merveilleux. Merci, merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Sam, qui clôturera la série. Ne manquez pas, ça va être super. Sam n'a pas souvent la parole dans cette église, mais quand il l'a, quand il a le micro, vous savez que c'est génial, on se régale, ça va déménager. Si j'avais cru il y a quelque temps que j'attendrais avec impatience un message sur l'investissement, pareil, je ne l'aurais jamais cru. C'est génial, merci Seigneur. Bonne semaine. Allez la France cet après-midi à 15h30 contre l'Écosse. Est-ce qu'on va battre les Écossais ? On va les battre. Pas de virus dans le stade de Murrayfield, au nom de Jésus, on le croit. Aucune chance qu'on batte les Écossais ? Non ! Tous chez Bob et Cilia pour voir le match. Non, c'est pas vrai. Et à dimanche prochain, les amis. Soyez bénis, bénis, bénis.